Je suis venu sans Brigitte ce matin. Ça se ressent, pour moi le premier. Et c'est vrai que elle avait une bonne raison d'être pas être là, et on s'est mis d'accord pour que elle est à un baptême d'une sœur qu'elle a suivie dans notre précédente église de l'EBTM. C'est une sœur qui a un parcours, un témoignage de vraiment d'être passée des ténèbres à la lumière. C'était quelqu'un qui était dépressive, et ce que le Seigneur a fait en elle, c'est magnifique. Qu'il soit loué. Et donc aujourd'hui, Brigitte est donc à l'EBTM à Toulouse. Voilà.
Tout le monde ne connaît pas l'EBTM.
Voilà. C'est l'église de Baptiste de Toulouse Métropole, notre précédente église. Et donc Brigitte vous salue bien, et je vous transmets aussi les salutations de l'église de Cahors. Souvent le pasteur me demande, alors Jacques, comment ça va? Donc on pense à vous, voilà. Est-ce que vous aimez les histoires de prince charmant monté sur un cheval blanc qui vient sauver sa belle en danger? Ces histoires, on n'a rien inventé. Ces histoires, vous savez, elles tirent leur origine, mais des récits de l'Apocalypse, où il est question justement du cheval blanc et de celui qui le monte et ceux qui le montent. Alors, on va continuer donc l'Apocalypse, de parcourir le livre de l'Apocalypse. Et alors merci pour le résumé qui a été fait du chapitre 4 et 5, où effectivement c'est une invitation à l'adoration de ce que Dieu est et ce qu'il a fait. Adorer celui qui est assis sur le trône, Dieu, et l'agneau immolé, Dieu le Fils. Jésus, l'agneau immolé, ce qu'on a vu la fois dernière, il est à la fois celui qui offre le pardon aujourd'hui à tout homme qui se tourne vers lui dans la repentance et dans la foi. Et ça sera aussi le même Jésus qui va initier les jugements à venir sur cette terre, le même. Effectivement, ces jugements, eh bien, ils sont caractérisés par l'ouverture des sept sceaux que nous allons voir aujourd'hui. Ce sont sept sceaux et puis sept trompettes qui sont dans le septième sceau, et puis sept coupes, donc des jugements du chapitre 6 jusqu'au chapitre 16 que Jésus va initier. Alors je vous propose de lire la suite donc du chapitre 6, c'est-à-dire le chapitre 7. Nous allons nous arrêter sur ces chapitres-là. Donc Apocalypse chapitre 7, en ayant bien à l'esprit ce que Morel nous a lu tout à l'heure, le chapitre 6. Apocalypse 7. Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Azer, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issacar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Après cela, je regardais, et voici. Il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. » Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et le conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci de nous avoir laissé ta parole. Ces textes que parfois nous ne trouvons pas faciles, nous voulons simplement les recevoir, Seigneur. Même si nous ne comprenons pas toujours tout, même si beaucoup, certains ne pensent pas tous la même chose, Seigneur, nous voulons recevoir dans l'humilité ces textes, Seigneur, et te demander qu'ils agissent dans notre vie comme... pour être, Seigneur, tes témoins, Seigneur, tes enfants dans ce monde, Seigneur. Et, Seigneur, être des sentinelles dans ce monde, en Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Alors, peut-être vous vous demandez, où est-ce qu'on peut trouver l'adoration dans ces textes? Ces textes qui commencent à... C'est du sérieux, là, des textes qui parlent du jugement. Eh bien, en se plongeant dans ces textes-là, il y a des raisons encore d'adorer Dieu. Comme dans tout le livre de l'Apocalypse, on a encore des raisons. Une des raisons... qui me pousse, et vous aussi, j'espère, qui nous pousse à adorer Dieu, et qui ressort de ce texte, c'est que Dieu est patient, jusque dans son jugement même. Dans une période de jugement, ce qui est le cas ici, Dieu est patient. Il est patient, et il offre encore le salut. C'est ce qu'on va voir, donc je vous propose en quatre points, on va voir premièrement, quels sont les quatre jugements que Dieu envoie sur la terre. Deuxièmement, nous verrons que le jugement, il est retenu. Il n'est pas total, il est retenu. Jusqu'à quand? Troisièmement, nous verrons une autre question. Il y a beaucoup de questions dans ces textes. Hein. Premièrement, jusqu'à quand? Deuxièmement, une autre question, eh bien, qui pourra subsister au jugement venu du ciel, celui-là? Et quatrièmement, le texte part d'une louange au ciel. Qui sont ceux qui adorent Dieu dans ce texte-là? Qui sont ces adorateurs? Des questions qu'on peut se poser, que le texte pose lui-même, d'ailleurs. Et qui nous invite à les poser. Premièrement, je vous invite à voir les quatre jugements envoyés sur la terre, donc les quatre premiers sceaux que le Seigneur ouvre, quatre jugements envoyés sur la terre. Quatre, ça fait penser que le jugement va venir de tous les côtés, de tous les côtés. Parce que Dieu exerce sa souveraineté sur le monde entier. C'est Jésus, l'agneau de Dieu, donc qui ouvre successivement les quatre sceaux. Et pour les quatre premiers, alors vous vous rappelez, hein, les textes précédents, il y a quatre êtres vivants associés au trône de Dieu, et bien chacun des quatre êtres vivants, du chapitre 4, hein, va appeler un cavalier. Il s'agit, dans notre texte du chapitre 6, des quatre cavaliers de l'Apocalypse. Alors, qui dit cavalier dit cheval. Et le premier cavalier, il est monté sur... Il est le premier cheval, il est blanc. Et qu'est-ce qu'il est dit? Il nous est dit qu'il... Verset 2, chapitre 6, 2... Il part en vainqueur pour vaincre. Vous avez vu l'insistance? Il part en vainqueur pour vaincre. Et il a une couronne qui est donnée avant la bataille, pour dire que c'est déjà gagné. La victoire est acquise. Ce cavalier blanc, eh bien, il est là pour nous dire que la victoire, elle est assurée. Aucun doute. Il est là, ce cavalier blanc, pour fortifier l'Église, pour nous fortifier, pour fortifier le peuple de Dieu. Alors, il y a plusieurs interprétations sur qui est ce cavalier blanc. Certains disent c'est Jésus, d'autres non. Je vous propose de voir d'une manière générale, à partir d'autres versets de l'Apocalypse, notamment Apocalypse 19:11 et 19:14, il est question dans 19:11 de Jésus, là. Je vous lis verset 11. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. » Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. » Là, il s'agit de Jésus. Et regardez le verset 14. « Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. » Alors, moi, je penche en tout cas sur... après avoir vu d'autres interprétations, je crois que ce cavalier blanc, il s'agit de Christ qui est suivi par son Église qui a été enlevée au ciel. Christ, le cavalier blanc, son Église, nous sommes lavés de nos péchés. Nous sommes appelés à être à la ressemblance de Jésus. Et on peut y voir. Plusieurs penchent pour cette interprétation. J'y pense aussi. Je penche aussi pour celle-là. On peut y voir l'Église qui aurait été enlevée au ciel avant la grande tribulation. Alors, je vais y revenir. Est-ce que l'Église va traverser la grande tribulation? Oui ou non? Je vous propose de garder ça pour plus tard. En tout cas, Voyons-y l'église qui aurait été enlevée au ciel avant la grande tribulation. Cette épreuve qui va s'abattre sur la terre entière. Vous vous rappelez tous, je pense, l'Éternel est souvent appelé l'Éternel des armées, notamment en psaume 24, verset 10. C'est qui son armée? C'est son Église. Il va revenir avec son Église régner. La grande tribulation, Jésus en parle en Matthieu 24, verset 21. Je vous lis Matthieu 24, verset 21. Alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et il n'y en aura jamais. Détresse si grande. Grande tribulation, il y en a eu des tribulations, mais pas comme celle-là. Il n'y en aura jamais plus comme celle-là qui est à venir. Jésus parlait non seulement des souffrances qui allaient arriver à Jérusalem. Vous savez, Jérusalem a été détruite en l'an 70. C'est une tribulation qui est tombée sur le peuple juif en l'an 70. On peut y voir une tribulation, mais c'est pas la plus grande. Jésus parlait surtout du temps qui précédera son retour sur terre. Nous, l'Église, on a un rôle, vous savez, d'apaiser le mal sur cette terre, de freiner. On a un rôle d'apporter la paix sur cette terre, par nos prières, par nos vies transformées à l'image de Christ. Nous sommes appelés à être ces lumières dans un monde qui ne connaît pas Dieu, un monde qui le refuse. Nous, son Église, eh bien, par la grâce de Dieu, nous sommes là pour briller de sa lumière. Et nous avons un rôle de freiner le mal sur cette terre par nos prières. C'est notre rôle. C'est notre rôle. Maintenant, lorsque l'Église, la colonne de la vérité, hein, comme il est dit dans une épître de l'apôtre Paul, lorsque l'Église va être enlevée au ciel, qu'est-ce qui va se passer sur terre? Il ne fera pas bon y vivre. La bonne influence, le bon parfum de Christ, de l'Église, dégagé par l'Église, ne sera plus. Et sur terre, eh bien, il va se passer des choses très dures, très dures. Il n'y aura plus aucune influence, bonne influence chrétienne sur la terre. Et vous avez remarqué ce premier cavalier blanc, il a un arc, il a une couronne, mais il n'est pas fait mention de flèche. Il n'est pas fait mention de flèche dans cet arc. Et ce n'est pas le premier cavalier blanc qui va provoquer la guerre. Il a un arc, mais pas de flèche. Vous avez remarqué, ce n'est qu'après l'ouverture du deuxième sceau qu'un second cavalier, qui est lui monté sur un cheval roux, va recevoir une épée et le pouvoir d'enlever la paix sur la terre, pour que les hommes s'égorgent les uns les autres. Une épée va être donnée à ce cavalier pour enlever la paix, pour que les hommes s'égorgent les uns les autres. Cette épée, elle sera pour les hommes qui auront refusé l'épée de la parole de Dieu. L'épée de la parole de Dieu qui apporte la vraie paix, la paix avec Dieu et la paix entre les hommes. Et la couleur rouge du cavalier roux, eh bien, et l'épée, ça évoque le sang. Le sang versé, ça évoque une guerre civile internationale. Ça évoque même une guerre de corps à corps. Les hommes vont s'égorger les uns les autres. Et Jésus en parle en Matthieu 24, 6 et 7. Troisième sceau. Jésus ouvre le troisième sceau. Le troisième être vivant associé au trône appelle cette fois un cheval noir qui est monté par un cavalier avec une balance à la main, nous est-il dit en chapitre 6, versets 5 et 6. Alors le troisième jugement à s'abattre sur la terre, il s'agit de la famine. Il s'agit de la famine. Pour s'acheter une mesure de blé, la mesure de blé, c'est la nourriture quotidienne d'une personne, il faudra un prix exorbitant. Il va falloir un denier qui équivalait au salaire de toute une journée pour s'acheter de quoi manger pour une journée. Il y aura une famine physique. Elle sera pour tous ceux qui auront refusé d'entendre le pain de la parole de Dieu, la nourriture de la parole de Dieu, la nourriture spirituelle. À ceux qui auront refusé la nourriture spirituelle de la parole de Dieu, Dieu promet une famine physique pour qu'ils aient faim et soif d'entendre la parole de Dieu. Voir Amos verset 8, Dieu enverra la famine de sa parole. Amos 8 verset 11. Aujourd'hui, on est dans une époque de tous les excès. Certains s'offrent des voyages en orbite autour de la Terre, voyages touristiques, dans l'espace, en fusée, pendant que d'autres vendent leurs enfants pour manger en Afghanistan. La balance est là pour nous rappeler que l'injustice ne durera pas toujours. Peut-être que vous posez la question jusqu'à quand? Et c'est une bonne question. L'injustice ne durera pas toujours. Le blé, l'orge, le vin et l'huile qui est mentionné ici, rappelons-nous, ça appartient à Dieu. C'est Dieu qui nous prodigue ses biens. Et ils nous sont donnés comme nourriture. Alors je me suis demandé, mais pourquoi l'huile et le vin? Pourquoi Dieu demande-t-il d'épargner l'huile et le vin? L'huile, c'est vrai que ça rappelle l'onction du Seigneur qui donne son esprit, mais pas seulement, qui nous donne la nourriture, qui fait germer le pain de la terre. C'est lui qui est tout le bien que nous avons, c'est lui qui nous le donne. Et le vin? Comment ne pas faire référence au sang de Jésus, par qui nous avons le pardon des péchés? Dieu demande d'épargner le vin et l'huile. J'y vois là une raison d'adorer Dieu. Pourquoi le vin et l'huile seront encore disponibles, même en ces temps troublés? Parce que certains pourront encore se convertir dans ces temps troublés. Ne fais pas de mal au vin et à l'huile. Certains auront encore besoin d'être pardonnés, bien sûr, de leurs péchés, et pourront encore accepter le Seigneur, le vin et l'huile, ce que Dieu a donné. Ouverture du quatrième sceau, toujours par Jésus, donc versets 7 et 8. Cette fois, il s'agit d'un cheval pâle, morbide, qui est monté sur un cavalier. Ce cavalier, c'est la mort. Et il est accompagné du séjour des morts. Ni la mort physique, ni le séjour des morts ne pourront être un abri pour ceux qui voudront, pour les pécheurs qui ne se seront pas repentis. La mort, eh bien, elle vient finir en quelque sorte le travail des deuxième et troisième jugements, c'est-à-dire l'épée et la famine. Et en plus, il est question d'épidémie, la peste, des pestes. Mais là, il y a de l'espoir, parce que le jugement, il est encore partiel. Parce que le cavalier de la mort ne sévit que sur un quart de la terre. Le jugement n'est pas total. Pourquoi? Parce que le jugement est retenu. Il est encore retenu. Il a commencé, oui, mais il est retenu. Alors la question est, jusqu'à quand ce jugement sera-t-il retenu? Eh bien, c'est l'ouverture du cinquième sceau qui nous éclaire. Ouverture du cinquième sceau, l'apôtre Jean voit quoi? Il voit les âmes des martyrs qui ont été persécutés et tués à cause du témoignage de Jésus, pour Jésus, au cours des siècles. Et pas seulement pendant la grande tribulation, il y en a eu des martyrs par le passé. Il y en a encore. Et il y en aura encore, qui mourront pour Jésus. Si on fait un bilan là déjà, de ces cinq premiers sceaux, et en nous demandant quelle époque est-ce que l'on vit aujourd'hui, eh bien on peut dire que ces cinq premiers sceaux ont déjà eu lieu. Pourquoi? Les quatre fléaux qui sont destinés ici aux nations ont déjà été envoyés sur Israël à cause de sa désobéissance. C'est ce que nous lisons dans l'Ancien Testament, en Ézéchiel 14, 21, où on retrouve les mêmes fléaux. Je lis Ézéchiel 14, 21. « Oui, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Quoique j'envoie contre Jérusalem mes quatre châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour en exterminer les hommes et les bêtes. » Ces quatre fléaux avaient déjà été envoyés sur Israël. Et maintenant, ils sont promis pour la terre, les habitants de la terre, pour les nations. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Eh bien, on peut en déduire que ces cavaliers de l'Apocalypse, ils ont déjà couru par le passé. Ils ont couru au XXe siècle et ils vont encore continuer à courir, ces cavaliers de l'Apocalypse. Les chevaux ont couru au XXe siècle. Le XXe siècle, c'est un siècle qui a vu près de 100 millions de morts, avec déjà les deux guerres mondiales. Rien que pour la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu 50 millions de morts. Le cavalier de la mort a déjà couru, il court encore. La famine, l'organisation chrétienne du sel, fait état d'une famine grandissante depuis la pandémie, qui est encore aggravée avec la guerre en Ukraine. Et aujourd'hui, on voit bien que les riches deviennent de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, pour que des mères en Afghanistan viennent à vendre leurs enfants. Ça s'explique par la mondialisation du commerce. Les pestes, il y en a eu. Il y a eu des épidémies de choléra au Moyen-Âge, la grippe espagnole à la fin de la Première Guerre mondiale. Et je vous apprends rien, épidémie de Covid, tout récemment. Il y en a eu, il y en a encore. Ces chevaux, ils courent encore et ils vont continuer à courir. Des personnes mourront encore pour Jésus. Les martyrs qui sont déjà morts, qui sont morts en martyrs, les chrétiens, tous les chrétiens ne meurent pas en martyrs. Il y en a qui meurent paisiblement dans leur lit. Certains mourront en martyrs, certains, beaucoup sont morts en martyrs. Celles qui, les chrétiens et chrétiennes qui sont déjà morts en martyrs, sont au ciel, il nous a dit, sous l'autel. Vous avez remarqué, sous l'autel, c'est une place privilégiée sous l'autel. Ils se tiennent devant Dieu, dans une proximité avec Dieu. C'est une place d'honneur, on pourrait dire. À cause du sacrifice de leur mort. Ils reçoivent une robe blanche, symbole de pureté. Alors entendons-nous bien. Ce n'est pas de verser notre sang qui nous lave de notre péché. Il y a une autre religion qui fonctionne comme ça. Ils meurent en martyr, ils versent leur sang et ils pensent que leurs péchés sont lavés. Non. L'islam fonctionne comme ça. Non. 1 Jean 1,7 nous dit « Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Seul le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Alors ces martyrs, non seulement ils avaient été lavés de leurs péchés par le sang de Jésus, comme nous sommes lavés de nos péchés par le sang de Jésus, ce que symbolise ce vêtement blanc que tout croyant a reçu, mais ces martyrs, non seulement ils ont été lavés par le sang de Jésus, mais ils ont versé leur sang pour Jésus. Ils n'ont pas renié leur maître. Ils ont été jusqu'à donner leur vie pour rester fidèles. Leur sang a été versé. Alors ce sang des martyrs, il crie et il réclame vengeance. Il réclame que justice soit rendue parce que cette loi, 100%, elle est là. Alors, ordre leur est donné d'attendre patiemment. Et ils demandent jusqu'à quand? Jusqu'à quand ça va durer? Et peut-être cette question, vous vous la posez vous aussi. Jusqu'à quand le mal va durer sur terre? Eh bien, la réponse est claire. Jusqu'à ce que le nombre des martyrs soit au complet. C'est rassurant. Ça veut dire que Dieu sait déjà le nombre exact de ces martyrs. Quand le dernier martyr partira-t-il? Parce que c'est lorsque leur nombre sera au complet, c'est-à-dire jusqu'à leur nombre sera au complet lorsque la coupe de la méchanceté sera pleine, avec l'avènement de l'Antéchrist qui est à venir, qui précédera l'avènement de Christ. C'est la mort du dernier martyr qui va déclencher le jour de l'Éternel et les jugements qui vont s'abattre sur tous ceux qui n'auront pas accepté Christ. 6e sceau ouvert par Jésus. Jusqu'à présent, il était question d'intervention humaine dirigée par Dieu, mais en tout cas qui concernait les hommes entre eux. Ici, voilà un jugement qui tombe du ciel. C'est le ciel qui tombe sur la tête. Venu du ciel directement, et on peut y voir là une réponse au cri des martyrs, jusqu'à quand? Et vient cette autre question, à ce jugement qui vient du ciel. Qui peut subsister? Qui pourra subsister? Parce que ce jugement, il se caractérise, c'est mon troisième point, qui peut subsister à ce jugement venu du ciel? Ce jugement, il est caractérisé par un tremblement de terre. Le ciel qui va s'enrouler comme un livre, voir Ésaïe 34,4, on a la même image. La lune et le soleil qui changent de couleur. Les étoiles qui tombent de la terre. Aussi incroyable que ça puisse paraître, des incroyants préféreront que le ciel leur tombe sur la tête, préféreront que les montagnes les écrasent, littéralement, plutôt que de faire face au jugement divin, plutôt que de voir l'agneau immolé qu'ils pourront voir au ciel. Certains préféreront être écrasés par le roc, par la pierre, plutôt que de faire face à l'agneau immolé. Vous avez remarqué, il n'est pas dit la colère du lion de Juda. Jésus, il est à la fois le lion de Juda et l'agneau immolé. Dans notre logique, on aurait mieux vu la colère d'un lion. Mais là, il est dit la colère de l'agneau. La colère de l'agneau. Le commentateur Matthew Henry a dit ceci. Car si le Rédempteur lui-même qui apaise le courroux de Dieu est notre ennemi, où pourrons-nous trouver un ami pour plaider notre cause? Ça semble impossible de survivre à de telles circonstances. Aussi bien pour les puissants, les rois, les présidents, aussi bien pour les puissants que pour les gens ordinaires, esclaves ou libres. D'où la question, qui pourrait échapper ? En regardant bien ce texte, il y a une expression qui nous donne de l'espoir. Cette expression, elle revient à chapitre 6, verset 6, et chapitre 3, verset 3. Chapitre 7, verset 3, pardon, c'est l'expression « Ne faites pas de mal ». Ne faites pas de mal. Alors oui, il y a de l'espoir. Certains pourront encore s'en sortir dans cette période-là. Il sera possible, et il y a un passage parallèle dans le livre de Joël, dans l'Ancien Testament, qui décrit la même scène, sur le soleil et la lune. Je lis chapitre 2, verset 31 et 32. Et le verset 32 nous donne de l'espoir. Joël 2, verset 31. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Et verset 32. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Certains vont en réchapper. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. L'apôtre Paul reprend cette citation, cette parole dans le livre de Joël. En Romains 10, verset 13, il rappelle « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Oui, il sera encore possible d'en réchapper en invoquant le nom du Seigneur pendant ces jours terribles. Qu'est-ce que ça montre ? Autre raison d'adorer Dieu. Ça montre que Dieu est patient. Il est patient pendant son jugement même, un jugement qui est terrible. Dieu est patient. Et il permettra encore aux hommes qui ne l'avaient pas encore fait de se repentir et d'accepter Jésus comme leur sauveur pendant la grande tribulation, ces jours sombres qui sont à venir. Ce sont ceux qui n'auront pas été enlevés au ciel avec l'Église, aussi bien des Juifs que des non-Juifs. Et Dieu, oui, permettra qu'ils passent par l'épreuve en même temps que le jugement des incroyants, pour qu'ils soient sanctifiés, pour qu'ils soient purifiés, pour qu'ils reçoivent une robe blanche et qu'ils rejoignent les autres croyants qui sont déjà au ciel, qui auront été enlevés. Alors oui, Dieu est patient. Dieu attend. Et voilà aussi pourquoi Dieu retient encore les quatre vents de son jugement total sur la terre. Les quatre vents de son jugement. Les jugements sont représentés par des vents qui sont retenus. Combien de temps Dieu va-t-il retenir son jugement ? Réponse : le temps de marquer du sceau de Dieu 144 000 de ses serviteurs. Alors là aussi, beaucoup d'encre a été, beaucoup de choses ont été écrites sur ces 144 000. Certains se sont appropriés pour donner leur interprétation. Et sur des points sur lesquels la Bible ne tranche pas. Il y a plusieurs avis qui sont différents sur ce qui sont ces 144 000. Mais sur des points sur lesquels la Bible ne tranche pas, eh bien, il y a des personnes qui ont des avis tout aussi respectables, même si on ne pense pas la même chose qu'eux, même s'ils ne pensent pas la même chose que nous. Idem, sur la question, est-ce que l'Église va traverser la grande tribulation? Tout le monde ne pense pas pareil, parmi les chrétiens. Ce sont des avis tout aussi respectables qu'il est bon d'entendre. En tout cas, je me suis fait mon opinion. Je crois qu'on peut prendre ce chiffre au sens littéral, vu la peine, oui, que Dieu a donnée à l'apôtre Jean pour qu'il écrive exactement chacune des 12 tribus d'Israël et le nombre, 12 000 par tribu. Ces tribus ont été mentionnées par leur nom. Alors je crois qu'on peut prendre ce chiffre littéralement. Je crois qu'il s'agit de 144 000 juifs, 12 000 de chaque tribu, qui vont devenir chrétiens pendant la grande tribulation. Pourquoi ? Parce que juste après, il est question d'une grande foule de toutes les nations, là, que personne ne pouvait dénombrer. Il y a bien un contraste, là, il y a bien une différence. Dieu donne un don très précis, les 144 000, issus des 12 tribus d'Israël, et ensuite, il est question, juste après, au verset 9, d'une foule de croyants de toutes nations que personne ne peut dénombrer. Il y en a, les Juifs, on peut les compter, pas les autres. Ce qui me fait pencher pour Ce sont des Juifs qui vont se convertir pendant cette grande tribulation. Alors oui, le temps de marquer du sceau de Dieu, ces personnes. Un sceau, ça sert à quoi un sceau? Ça sert à marquer la propriété d'un sceau ou d'une personne. Et ça sert aussi à marquer un sceau, ça sert à marquer l'authenticité. Et Dieu reconnaîtra les siens, oui, parce que tout chrétien appartient à Dieu. Il n'y a pas de contrefaçon. Il n'y a pas des demi-chrétiens, des vrais chrétiens, des faux chrétiens. Ou on est chrétien ou on ne l'est pas. Et tout chrétien a été déjà marqué. Nous avons déjà été marqués d'un sceau. Vous savez lequel? Celui du Saint-Esprit. Éphésiens 1, verset 13, je vous lis dans l'épître de Paul aux Éphésiens 1, 13. « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Tout chrétien a déjà reçu un sceau, comme marque qu'il appartient, nous appartenons à Dieu. Le sceau sert aussi à protéger, pour reconnaître ce qu'il faut épargner, sans pour autant empêcher toutes les souffrances. Par cette marque, Dieu met à part celles et ceux qui lui appartiennent. Ici, il s'agit de juifs croyants qui ont été lavés par le sang de l'agneau. Est-ce que ça vous rappelle pas un récit de l'Ancien Testament? Quelques-uns qui ont été marqués, qui ont dû mettre du sang sur le lintel de leur porte quand la plaie est arrivée, la Pâque. Ça rappelle effectivement ce récit. On voit comment tout se tient dans la parole, c'est merveilleux. Les Juifs qui avaient marqué leur linteau avec du sang avaient été protégés durant la dixième plaie d'Égypte. Exode 12, verset 13. Et l'Ancien Testament annonce clairement la conversion d'Israël. Dans les derniers jours, Israël se convertira et servira de nation témoin aux autres nations. En quelque sorte de nation témoin. Je ne vais pas le lire, mais lisez-le. Zacharie 12, verset 9 et 10. Zacharie 12, verset 9 et 10. Alors, dans notre livre de Apocalypse, je vois que vous cherchez dans vos bibles, je vais le lire. Zacharie 12, verset 9 et 10. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Et ça, c'est un verset que vous pouvez présenter aux témoins de Jéhovah, qui ne croient pas que Jésus est Dieu. Ils tourneront les regards vers qui? C'est l'Éternel qui parle, vers moi, celui qu'ils ont percé. L'Éternel a été percé. Et les Juifs reconnaîtront Jésus comme le Messie. C'est un verset qui a beaucoup compté dans mon témoignage, en tout cas. Alors, revenons à notre texte. L'énumération des 12 tribus d'Israël et le après du verset 9 montrent une grande foule en robe blanche que personne ne pouvait dénombrer, de toute nation, de toute tribu. Ils sont devant le trône en train d'adorer Dieu. Pourquoi? Pour son salut. Et une question qui peut nous surprendre. Et la question, c'est celui qui sait la réponse, qui va la poser à l'apôtre Jean. D'où sont-ils? Qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Alors là aussi, plusieurs interprétations. Certains y voient l'Église en entier. On voit l'Église en entier, tous les croyants, adorer Dieu dans les chapitres précédents, dans le chapitre 5, où l'adoration, c'est toute la terre qui adore le Seigneur. Ici, si la question est posée, c'est que, et la réponse est très claire, c'est que ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Alors, mon quatrième point est cette louange au ciel. Par qui? Qui sont ceux qui adorent dans ce passage-là? Ce verset 9, il marque l'arrivée au ciel du dernier martyr. Et là, eh bien, sont réunis la génération des chrétiens des derniers temps, ceux qui n'auront pas encore été enlevés au ciel avec l'Église et qui se seront convertis pendant la grande tribulation, aussi bien des juifs que des non-juifs. Et ceux qui sont morts en martyrs pendant cette période se rajouteront aux croyants de tous les temps, déjà au ciel, lavés de leur péché par Jésus. Jésus qui a lavé nos péchés. Alors, eh bien, cette louange et autre raison d'adorer Dieu, c'est que le mal aura une fin. Le mal aura une fin. La victoire du bien sur le mal, elle est certaine et elle sera totale. Dieu est au contrôle sur tous les événements, quoi qu'il se passe. Et aujourd'hui, oui, si vous allumez la radio, la télé, c'est assez anxiogène, rien ne va plus. Hein. Et même, les médias ne se privent pas. Mais nous avons une espérance qui est certaine, qui est basée sur la parole de Dieu qui ne ment pas. Ce texte nous rappelle aussi que, oui, rien n'arrive sans que Dieu ne le permette. Et parfois, il permettra la mort de ses enfants. Et n'en doutons pas, il sera là. Il a mort de ses enfants en martyr. Et lui seul connaît la réponse au nombre exact de martyrs. Lui seul connaît qui sera le dernier martyr qui arrivera au ciel. Lui seul sait quand, jusqu'à quand. Lui seul connaît la réponse à ces questions. Alors en attendant, nous sommes là, n'est-ce pas? Et une question que beaucoup se posent, et sur laquelle la Bible ne tranche pas, d'où l'importance de respecter les avis qui divergent, qui ne sont pas les mêmes. L'Église passera-t-elle, oui ou non, par la grande tribulation? Est-ce qu'elle sera enlevée avant? Pendant? Après? Cette épreuve finale? Personnellement, je pense que non. L'Église ne passera pas par la grande tribulation. Pourquoi? Parce qu'il y a des récits déjà dans l'Ancien Testament. Il y a des croyants dans l'Ancien Testament qui ont échappé à des plaies, à des épreuves qui, a fortiori, étaient moins grandes que celles de la grande tribulation. Je pense à Noé et sa famille. Quand le jugement s'est abattu sur la terre entière, Noé, le juste, a été sauvé, lui et sa famille. Il a fait confiance à Dieu. Il a été épargné du jugement du déluge. Il a été mis à l'abri dans l'arche pendant le déluge. Pendant le déluge, il était à l'abri. Autre raison, autre récit dans l'Ancien Testament, Sodome et Gomorre. Sodome et Gomorre ont été détruites quand Lot et sa famille étaient suffisamment à l'abri. C'est là que Dieu a envoyé le feu de son jugement. Et là, c'était le signal du jugement, quand Lot et sa famille ont été à l'abri. Et puis à nous, Église, il y a une promesse qu'on trouve dans Apocalypse. Apocalypse, la promesse à l'Église de Philadelphie, celle qui est restée fidèle, l'Église fidèle des derniers temps. Voici ce qu'il dit en Apocalypse 3, verset 10. À l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Quelle est cette promesse? Je te garderai. Je te garderai à l'heure de la tentation. L'expression traduite par à l'heure de la tentation peut aussi se traduire par hors de cette heure-là. Je te garderai hors de cette heure qui va tomber sur le monde. Alors, je crois que l'Église sera enlevée avant cette heure. Et autre raison d'adorer Dieu. Vous avez remarqué comment Dieu nous prévient. Et pas seulement nous, mais il prévient le monde. Il a annoncé par avance ce qui va arriver pour avertir le monde. Dieu a tenu, déjà pour nous, Église, Dieu a tenu à nous informer par avance de cette détresse qui va tomber sur le monde, par sa parole. Pourquoi? Pour nous consoler, pas pour nous effrayer, pour nous fortifier. Alors on a des raisons d'être reconnaissants pour sa parole. Gardons sa parole et elle nous gardera. Je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre, nous dit la parole. Gardons la parole, elle nous gardera. Pour les autres maintenant, ceux qui ne sont pas encore sauvés, ceux qui n'auront pas cru en l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, eh bien le jugement sera juste. On ne peut pas dire à Dieu, c'est pas juste, non. Tout aura été fait. Le jugement sera juste, mérité et nécessaire. Parce que Dieu a annoncé par avance ses jugements, parce que Dieu a prévenu, il a averti. Comme pour laisser une dernière chance de se repentir et de se convertir aux sceptiques, aux incrédules. Quelle patience! Quelle patience de la part de Dieu qui leur donnera encore une possibilité de se tourner vers lui, mais cette fois pendant la grande tribulation, avec tout son cortège de souffrances. Il n'y a pas photo. Mieux vaut se convertir avant la grande tribulation que pendant. Alors, si vous n'êtes pas sauvé de vos péchés, eh bien, n'attendez pas. La Bible dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. Repentez-vous, croyez que Jésus, l'agneau immolé, s'est sacrifié pour vous à la croix et est ressuscité. Et voici une promesse merveilleuse de la parole de Dieu qui ne peut pas mentir, en Actes 3, versets 19 et 20. Belle promesse. Actes 3, 19 et 20. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Quand on est sauvé, quelle espérance nous avons en lui. Et parfois, j'entends des personnes qui sont nouvelles dans l'Église, qui découvrent les vérités de la parole de Dieu, et c'est merveilleux de les voir s'ouvrir à la parole. Et pour autant, récemment, il y a quelqu'un qui m'a dit, bon, oui, j'ai compris la repentance, mais je suis pas sûr, mais j'ai pas l'impression que je suis sauvé, mes émotions me disent le contraire. Il avait besoin d'assurance. Mais on peut être sûr. Si tu as donné ta vie à Christ, tu t'es reconnu pécheur, pécheresse, tu t'es repenti, tu as cru en son sacrifice, tu es sauvé. C'est pas moi qui le dis. Le verset que je viens de lire, c'est la parole de Dieu qui dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Si tu es enfant de Dieu, tes péchés sont effacés. Tu as ta robe blanche qui t'attend. Et ceux qui se convertiront pendant la grande tribulation. Regardez encore l'amour de Dieu pour ces personnes. Les derniers, hein, ceux qui vont arriver en dernier. Ces promesses à la fin de notre chapitre 7. Eh bien, Dieu lui-même, de son doigt, essuiera leurs larmes de leurs yeux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. C'est lui qui les consolera. Il habitera parmi son peuple. L'agneau immolé, Christ, les conduira aux sources d'eau vive, versets 15 et 17 de notre passage, chapitre 7. Il les conduira aux sources d'eau vive. Cette source d'eau vive, où sont-elles? Il est lui la source d'eau vive. Vous vous rappelez, sur la croix, Jésus a dit une parole. Il a dit « J'ai soif ». Lui qui est la source d'eau vive. Il a eu soif pour que nous n'ayons plus jamais soif. Si nous croyons en lui, si nous croyons qu'il s'est donné pour nous à la croix, qu'il est ressuscité, il est passé par là, lui la source d'eau vive. Je vais prier. Oui Seigneur, comment ne pas t'adorer quand nous voyons combien tu es patient Seigneur envers ce monde, que tu as créé, que tu aimes Seigneur. Tous ces gens qui ne te connaissent pas Seigneur, nous te prions que ton Église Seigneur, où qu'elle soit grande ou petite, nous brillons Seigneur de ta lumière Seigneur, de tout ce que tu as fait dans nos vies. Seigneur, que le monde le voit, il y a des gens qui sont en recherche, comme disait Bernard ce matin, des gens qui sont en recherche et qui ont besoin de réponses. Seigneur, donne-nous d'être à tes rendez-vous, au rendez-vous divin que tu nous fixes avec les personnes que tu mets sur notre route. Et que Seigneur, nous sachions parler en vérité, Seigneur, de ce que dit ta parole, Seigneur, de dire ta parole fidèlement. Que oui, il est grand temps, Seigneur, de se tourner vers toi. Je te prie pour ces personnes qui s'inquiètent beaucoup pour leur avenir, celui de leurs enfants. Et Seigneur, fais qu'ils cherchent au bon endroit, fais qu'ils cherchent en toi, le Seigneur, toi qui es l'espérance, toi qui vas revenir. Au nom de Jésus. Amen. Amen.